Ce soir, vous allez partir pauvre d'Estramadur et à la fin d'une heure, vous serez chargé de milliers de kilos d'or. Vous aurez découvert le Pérou, vous serez tombé en extase devant le trésor de l'Inca, vous aurez découvert ce que nul homme après Pissarro n'aura jamais retrouvé sur cette planète, le pays où coule l'or, où vous l'appliquez contre les parois, où chaque statue, chaque goutte sortie du soleil vous représente ce dieu sur terre. Vous êtes l'Inca, vous êtes maintenant l'homme le plus riche de la planète. Réussir une conquête, pour partir à la conquête de l'inconnu, il faut se mettre à plusieurs. Il faut d'abord un homme. Il faut Pissarro. Pissarro, eh bien, il est né dans ces terres extrêmement pauvres d'Espagne, à Trujillo, en Estramadur. On prétend qu'il est bâtard. On prétend qu'il est, non seulement bâtard et que sa mère vendait peut-être ses charmes, mais qu'il a été abandonné au pied d'une église, devant les marches de cette église de Trujillo. Et son père l'a finalement reconnu. Et c'est grâce à son métier de simple gardien de cochon à la ferme de son père, qui était noble, qu'il va petit à petit observer la vie. Il sera envoyé surtout dès son jeune âge batailler dans les troupes du roi d'Espagne. Il partira en Italie et on va oublier naturellement de lui apprendre à lire, à écrire, mais ce n'est pas un détail très important pour un conquistador. Il suffit parfois de signer avec une croix, et c'est surtout avec l'épée qu'il saura devenir quelqu'un. Et je crois que sa force, cette habileté qu'il a avec une arme, c'est cela qui va nous donner à réfléchir pour mieux le comprendre, parce que il va vivre une vie absolument folle. À 50 ans, vous allez le retrouver du côté de Panama. Il a toujours une belle barbe noire, il a des appétits, il a envie encore d'être plus riche, il est pourtant déjà colon, il est planteur. Pissarro, c'est quelqu'un qui commence véritablement sa vie lorsque les autres l'ont terminé. 50 ans, c'est déjà, pour ce 16e siècle, être un vieillard. Et pourtant, il va retrouver un certain Diego de Almagro. Ce sera son ami, c'est quelqu'un qui a aussi été abandonné par ses parents à la porte d'une église, du côté de la Castille. Peut-être que c'est cela qui va créer cette amitié entre le capitaine et cet homme qui a aussi de la bravoure, parce qu'il a la même soif en même temps d'or. Ils ont envie de s'enrichir tous les deux et on les retrouve en compagnie d'un troisième personnage. C'est un prêtre. C'est le père Fernando de Luque. Luque, loco, le fou, ce vicaire qui a été d'abord un maître d'école, mais qui est surtout quelqu'un qui va réussir ici à Panama à s'allier avec tous les gens qui ont de la fortune, qui ont réussi à créer un petit empire, une colonie, car c'est du terrain vierge, cette jungle de Panama. Et lui, il va apprendre la grammaire, il est professeur, il va apprendre le catéchisme à tous ces premiers métis qui sont maintenant installés dans ce continent, ce début du continent sud-américain. Et le plus âgé de ses élèves doit avoir, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Mais ce qu'il conseille surtout aux parents, c'est de placer leur argent sur cette idée de partir vers le sud. Il leur demande des pesos et là, il devient un peu banquier. C'est étrange pour un prêtre. Et c'est dans sa maison que les trois personnages vont se réunir, c'est-à-dire lui-même et Pissarro, Almagro. Et ils pensent surtout à des projets de voyage. Et ils ont quelque chose qui va les allumer, comme on peut dire. C'est une sorte d'enthousiasme qui va se créer autour d'un personnage qui vient de rentrer de la partie la plus au sud de la colonie. C'est un cavalier, c'est quelqu'un qui normalement a voulu prendre d'abord la voie de terre. Il s'appelle Pascal d'Andagoya. Et Andagoya, pour moi, c'est quelqu'un d'important parce que c'est vraiment le déclic qui va permettre la conquête du sud. Il a fait des expéditions, je vous l'ai dit, avec ses chevaux, mais il en a fait aussi quelques-unes par voie de mer. Et il a été suffisamment au sud pour se rendre compte qu'il y avait là-bas, beaucoup plus loin encore, un peuple qui était sûrement d'origine divine. Ça, c'est le début de l'Eldorado, c'est le début d'une légende très importante, et il va surtout prétendre qu'il y a un prince, un roi, quelqu'un d'assez merveilleux qui descend directement du soleil, qui tient ses pouvoirs du soleil, et il prétend que les Indiens disent qu'il y a de l'or partout et qu'on le met sur n'importe quoi. Donc il décrit des maisons, il décrit des ustensiles, et il appelle cette région Pirou. Pirou, c'est quelque chose qui va faire rêver Pissarro, bien sûr, Luque et Almagro. Et Andagoya, bon, il ne pouvait pas en dire plus, mais Pissarro se rappelait surtout d'un tout petit détail qu'il avait vécu aux alentours des années 1513, lorsque, avec Balboa, il avait découvert pour la première fois cette grande mer du Sud, c'est-à-dire lorsqu'il avait traversé l'isthme de Panama et qu'ils avaient découvert le Pacifique. Et lors de cette expédition, ils étaient tombés sur un Indien qui avait déclaré quelque chose d'assez curieux, qui n'avait pas été compris tout de suite. C'est-à-dire que les Espagnols étaient en train de peser, avec une balance indienne certainement, de l'or, de la poudre d'or, et cet indigène avait bousculé le peseur d'or, et l'or était tombé à terre, et il avait été difficile dans la boue de le récupérer. Et l'Indien avait dit « Mon Dieu, mais il ne faut pas vous énerver comme ça, si vous cherchez de l'or, il y en a partout si vous allez vers le sud. Descendez vers ce pays où l'on boit, où l'on mange dans des vases d'or. » Vous sentez le déclic ? C'est la deuxième fois qu'on disait la même chose à Pissarro. Et chacun, naturellement, là, à Panama, vous êtes dans cette jungle, dans ce territoire qui est très pauvre, bah, chacun a dans sa tête son petit Eldorado, sa légende, une légende en or. Et loco, luque, loco, ça veut dire fou en espagnol. Notre prêtre banquier assez curieux, bah, il sait très bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et si je repense aux Espagnols ou à l'Espagne elle-même, je crois qu'il faut surtout saisir que personne ne s'intéresse à Panama. Pourquoi ? Parce que si on s'agite sur place, on appelle cet endroit, c'est très beau d'ailleurs, Castilla de Oro. On l'appelait déjà la Castille d'or. Or, c'était une région tellement pauvre que quand on pensait, je sais pas, il y avait une cinquantaine certainement, ou peut-être même plus, entre 50 et 60 caravelles qui revenaient déjà chaque année depuis l'Amérique, mais surtout bien sûr de Veracruz, vers Séville. Et elles rapportaient de l'or, tout cet or du Nouveau Monde. Il y avait très peu de choses qui arrivaient de cette région faite de forêts, de marécages. Panama, c'était presque un point inconnu sur la carte. Le Darien, ça n'avait rien rapporté jusqu'à maintenant. Et pourtant, nos trois hommes rêvent et ils pensent, si on revient à Pissarro, ils pensent surtout à cette expédition qu'ils vont faire. Et tout se déclenche en 1524. Vous voyez cet homme maintenant qui a décidé de partir au mois de novembre avec une centaine d'Espagnols, quelques Indiens. Et il part, il atteint plus exactement le port, le dernier endroit où est arrivé notre marraine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est arrivé jusqu'à Puerto de Ananas. Et là, c'est vraiment le dernier endroit où Andagoya est arrivé. C'est-à-dire que c'est l'expédition qui va maintenant doubler cet endroit. Elle pénètre dans le sud et on arrive jusqu'à une rivière que les Indiens nomment Pirou. C'est sûrement là que commence vraiment la légende. C'est peut-être simplement cette eau qui coulait des Andes qui a donné le nom à tout cet inconnu du sud. Et vous allez voir. Vous pourrez l'acheter, ce Pérou, avant de l'avoir découvert. Passé la rivière, vous avez passé ce Pérou futur et vous voulez débarquer. Vous descendez avec vos cottes de mailles, vous tenez votre épée à la main, vous essayez d'ouvrir une brèche dans cette forêt. Vous êtes en plein pays des légendes et là, vous percez effectivement ce chemin à travers cette obscurité. Vous essayez de voir ce qui se passe derrière, vous avez des vallonnements qui se succèdent, il y a des marécages, un ciel qui est toujours caché parce que vous êtes à l'intérieur de cette végétation. Il y a la fatigue de la journée, le soir vous dormez sur des palmes, vous entendez les singes, le matin vous êtes réveillé par les sifflements de tous ces oiseaux qui sont complètement invisibles, vous ne voyez que quelques traces mais aucun campement d'Indiens, rien, vous avancez toujours, il pleut, c'est vrai que les Espagnols se rappellent de ce bruit de la pluie sur les grandes feuilles de la jungle, il y a cette lutte contre la boue. Enfin, tout le monde est épuisé. Et finalement, juste au bout de cette forêt, après une lisière, on découvre un paysage qui n'a rien à vous faire crier de joie, puisque tout à coup, vous vous retrouvez devant un immense mur noir, quelque chose d'énorme, une plaine rocailleuse, et tout au fond, cette cordillère des Andes. Cette cordillère que vous allez apercevoir sans arrêt maintenant, depuis les côtes, que vous allez longer avec les caravelles, car vous revenez vers les caravelles et vous donnez l'ordre de continuer toujours plus bas. On reprend cette navigation et maintenant c'est la tempête, il y a des difficultés énormes. Je vous parle un peu de ces premières avances vers le sud parce que c'est seulement, je vous ai dit que nous étions en 1524, c'est seulement en 1532 que l'on va véritablement toucher notre point névralgique de l'Empire Inca, qu'on se retrouvera tout à l'heure à Caramarca. Donc il faut de la patience et si je parle des tempêtes, c'est que tout à coup vous allez perdre vos barils d'eau douce, vous n'aurez plus rien à manger, il n'y aura plus de provisions, tout va être détruit par l'eau de mer et vous voilà réduit maintenant à des épis, ces épis de blé indien, comme on l'appelle, ce maïs qui est un mot des Caraïbes, et vous n'aurez plus rien de particulier à vous mettre sous la dent. Il faudra faire des escales pour essayer de trouver quelque chose. Vous êtes toujours dans cette forêt vierge, toujours identique. Bon, il y a peut-être un peu moins de bruit que dans la région de la rivière Birou, mais il y a toujours ce même bruit de fond, cette pluie qui tombe, vous êtes dans l'humidité, c'est quelque chose d'épouvantable, ces terres tropicales qui suivent le Panama jusqu'en Équateur. Et finalement, vous devez vous arrêter dans un endroit que les Espagnols vont appeler le port de la faim. C'est vous dire, FIM bien sûr, c'est vous dire à quel point ils ont eu des difficultés. Ben, vous pouvez manger quelques baies sauvages, des coquillages, peut-être un animal qu'un Indien arrivera à attraper, mais il n'y a rien d'autre. Vos arquebuses, elles servent strictement à rien, tout est humide. Alors on commence à murmurer, et puis il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont mortes dans l'aventure. Pissarro va essayer de rassembler ses troupes, et il rappelle les hauts faits de tous ceux qui l'ont précédé. Il repense bien sûr à Cortés, son petit cousin. Eh bien oui, c'est vrai que pour ces gens-là, ça ne leur dit pas grand-chose. Et il doit faire un pas en arrière, il retourne, enfin il va chercher de l'aide sur l'île des Perles, qui est au nord, qui est déjà tout près de Panama, où on ramènerait éventuellement des provisions. Et pendant 2 mois, on va attendre. Les troupes de Pissarro vont continuer à faire des explorations à l'intérieur, jusqu'au jour où ils vont débarquer dans une clairière, et là, pour la première fois, ils vont tomber sur un village indien. Les Indiens sont partis, naturellement, ils ont fui dans la forêt, et là, vous allez enfin trouver quelque chose à manger. Et c'est curieux de voir cette observation, des Indiens qui sont derrière les feuilles. Vous voyez ces Espagnols qui dévorent tout ce qu'ils ont trouvé. C'était pour ça qu'ils étaient là, ces hommes étrangers. C'était simplement parce qu'ils avaient faim. Alors, vous êtes Indien, vous osez ressortir de la forêt, et finalement, tout se passe très bien. Et ces gens-là vont commencer à s'entendre, à discuter, on reparle du sud, mais ce que Pissarro va voir tout de suite, ça n'est pas la couleur cuivrée de ces indigènes, c'est ce reflet très curieux au bout des oreilles, autour des poignets, autour du cou, les pectoraux, les boucles d'oreilles, les bracelets, tout est en or. Alors là, la petite lampe intérieure s'est allumée, c'est bien vers le sud qu'il faut aller. Et ainsi, Pissarro va avoir envie de continuer à descendre beaucoup plus loin, et il va surtout essayer de comprendre qui vit dans ces terres inconnues. Imaginez-vous, vous êtes en plein milieu de la cordillère des Andes, vous êtes du côté de la Quito actuelle, la capitale de l'Équateur, et vous êtes le dernier des grands Incas. Vous êtes venu depuis Cusco, vous avez parcouru 2000 kilomètres pour envahir cette partie de votre empire, du Tahuantinsuyu, cet empire des quatre parties, qui fait 5000 kilomètres de longueur. Vous êtes arrivé pratiquement au bout du monde, et vous êtes celui qui tient le pouvoir de tout cela en main, et vous êtes à l'heure de votre mort. Oui, il y a eu des gens qui ont débarqué du côté de la Colombie, et par Indiens interposés, vous avez attrapé une maladie nouvelle, quelque chose qu'on ne connaît pas, que nous appelons la variole. Et vous êtes l'Inca, et vous allez dire adieu maintenant à votre famille. Vous réunissez tous les seigneurs pour en faire un conseil privé. Vous parlez aux sages, vous parlez aux chefs de toutes les provinces, et vous leur dites, tout cela on le sait grâce à des chroniqueurs indiens, vous leur dites que le soleil, votre père, vous a déclaré qu'après 12 Incas, il y aurait des problèmes. Vous parlez aussi de ce que l'on prétend, de ce qu'on dit déjà, qu'il y a des hommes inconnus à quelque part, une espèce d'homme qu'on ne connaît que sur des animaux étranges. Un peu les mêmes légendes, les mêmes idées que l'on avait ressorties au Mexique à l'apparition des premiers Espagnols. Et on vous dit que tous ces hommes vont arriver depuis la côte où était parti le légendaire Viracocha. Enfin, des légendes qui sont très curieusement identiques et des phénomènes historiques qui sont identiques. Et lorsque vous avez dit ces derniers mots, eh bien, vous allez tracer sur le sol quelques signes afin que les hauts fonctionnaires dictionnaire se rappelle de vos propos. Ça, c'est un peu l'écriture, enfin le système mnémotechnique utilisé par les Cañaris ou bien les Incas. Ce sera votre dernier geste, vous allez fermer les yeux. Et on va obéir à ce personnage incroyable qu'est l'Inca. On va obéir à son père aussi, le soleil, puisqu'il l'appelle maintenant dans sa dernière demeure. À côté de vous, il y a le grand prêtre qui se prépare déjà avec un couteau d'or à vous ouvrir la poitrine. Vous êtes le roi, il faut laisser vos viscères à Quito, mais votre momie doit partir jusqu'au nombril du monde. Vous êtes le nombril du monde. Retournez à Cusco, au centre du temple du soleil. Pour Pizarro et ses aventuriers, vous qui êtes européen, vous qui êtes venu depuis l'Espagne, vous qui venez de toucher aux rives de cet empire, eh bien pour vous, vous êtes en l'année 1527. C'est l'année où meurt justement Huayna Capac, le dernier grand Inca qui va régner sur cet empire incroyable, le dernier à régner sur tout l'empire Inca, de l'Argentine jusqu'à la Colombie. Mais si on revient à ces explorations, si on revient en compagnie des Espagnols, je crois qu'il faut parler un peu d'un pilote, enfin d'un tout petit événement qui m'intéresse. C'est celui qui entoure le voyage de Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz, c'est quelqu'un qui est sur son bateau et qui va toujours plus au sud, qui regarde la côte, il regarde sur la gauche, et depuis quelques jours, le rivage a complètement changé. Hein. Vous étiez dans la jungle, tout est beaucoup plus accueillant, on commence à trouver du sable blanc, et puis plus loin, il y a des arbres tropicaux, des palmiers très doux, et finalement, ce qu'on remarque le plus, ce sont des fumées, parce qu'un peu partout, il y a des villages, la plage s'est animée, on voit partout des Indiens qui gesticulent, on n'ose pas aborder. Non, parce que le rôle d'un pilote comme Ruiz, c'est simplement d'observer, de reconnaître cette route du sud, et de rapporter des renseignements à son chef, parce que son chef, c'est François Pissard, qui est resté du côté de la rivière de Saint-Jean, qui est plus au nord, et qui a envoyé Almagro à Panama avec un lot de pierres précieuses, de l'or, de l'argent, simplement pour ramener en échange de nouveaux soldats, parce qu'il faut toujours de nouveaux hommes pour cette expédition. Et vous avez tout à coup quelque chose qui va se produire. On entend la voix d'un matelot qui dit qu'il y a un bateau, il y a une embarcation là, juste à côté. Et Ruiz, il va monter sur le gaillard et il scrute carrément l'horizon et il aperçoit effectivement quelque chose d'étrange, quelque chose qui fait route vers eux avec tout un équipage. Il réunit tout le monde, on arrive comme ça devant, on observe ce vaisseau un peu curieux et venant de la mer, devenant carrément du sud, pour les Espagnols, qui n'ont jamais été si loin, ils aperçoivent tout à coup une voile rectangulaire qui est faite en roseau, qui est gonflée par le vent, et puis il y a un radeau dessous. Mais quel radeau ? Parce que lorsque vous l'observez, vous remarquez que c'est quelque chose qui est fait avec des énormes troncs de ce qu'on appellera le balsa, ce bois très léger, des troncs qui sont blancs, qui sont bien lisses, qui sont bien amarrés entre eux, avec des cordes. Et sur la partie arrière, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est également construit en roseau, une sorte de cabine qui est couverte d'ailleurs avec ces mêmes joncs, et une dizaine d'Indiens qui s'affairent sur cette embarcation. Et il y en a quelques-uns qui s'occupent de la voile. Et on s'approche. La caravelle et le radeau sont maintenant juste bord à bord. vous êtes balancé par la même houle et pour la première fois, les marins espagnols, les marins indiens vont se dévisager. Un des matelots a vu qu'il y avait des femmes. Oui, aïe, je vois plusieurs femmes sur ce radeau. Ça, c'est quelque chose de très important pour des gens qui sont partis depuis longtemps. Aïe, mujeres. Et en même temps, on voit surtout briller de l'or. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des tissus d'une laine extrêmement fine, une laine qu'on ne connaît pas, d'un animal qu'on ne connaît pas, c'est bien sûr l'alpaca, le lama. Et puis, il y a surtout ces couleurs fantastiques, le jaune, le rouge, le bleu, des choses beaucoup plus raffinées que celles du Nord. Il y a maintenant, lorsqu'on est descendu, un inventaire à faire. On remarque qu'il y a des miroirs d'argent, qu'il y a des coupes, qu'il y a des vases, des choses qui sont décorées encore plus finement, des vêtements qui ont été terminés avec de la plume, des plumasseries extrêmement délicates. Et puis, il y a des poteries avec des peintures étranges, des animaux, des scènes mythologiques. Et puis un instrument qu'on ne connaît pas encore, cette espèce de petite balance dont a déjà parlé Pissarro pour peser la poudre d'or, par exemple. Ah, donc ces gens-là sont des commerçants, donc ils montent vers le nord pour échanger leurs produits. Ça veut dire que dans le sud, il y a tous ces produits. Bien sûr, c'est le début de l'interrogation. On va échanger tout cela contre des pacotilles, on va même tuer un cochon pour faire la fête. Tout ce que je vous raconte, je le sais parce qu'il y a eu des chroniques très précises, parce que ces Espagnols, et puis finalement les Indiens qui vont maintenant les accompagner, ont pris des notes ou se sont fort bien rappelés avant d'apprendre notre propre langue ou nos caractères latins. Et là, on va faire prisonnier plusieurs indigènes, bien sûr, et on va surtout faire monter sur le bateau un petit jeune homme qui deviendra très important, qu'on va baptiser très rapidement. On va l'appeler Philippe, Felipillo, en langage plus amical, et il deviendra l'interprète parfait pour ses futurs conquérants. Felipillo, il va apprendre très vite l'espagnol, il connaît la langue quechua, la langue de contact, il connaît, parce qu'il vient certainement de la côte, dans la région de Tumbes, la langue des Chimous. Ce sera véritablement l'interprète parfait pour pouvoir communiquer dans quelques mois, dans quelques années même, avec les derniers Incas. Donc vous voyez que on découvre déjà ce que sera le futur Pérou. On vous dit déjà par ce radeau tout ce que contient ce Pérou que personne ne connaît. Et les Indiens vont très vite traduire que plus au sud, il y a bien sûr de l'or, mais qu'il y a surtout une grande ville avec des maisons, qu'il y a un prince très puissant. Donc tous les renseignements commencent à se concrétiser. Et là, en emmenant ces quelques indigènes, en prenant quelques lamas, en ramenant tout cela vers le nord, on va pouvoir jouer un jeu que Pissarro va comprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux grâce à l'expérience de son cousin Cortés. Il se dit, si je veux vraiment que ce territoire soit à moi et que je n'ai pas les problèmes de mon cousin, il faut que j'aie le courage de revenir en Espagne. Il faut que j'aille voir Charles Quint. Et il finira par retrouver Charles Quint. Il ira jusqu'à Tolède, il aura de la patience. La reine finira par signer, par accepter des titres pour tous ces Espagnols qui déjà achètent justement les titres de ce Pérou où personne n'a jamais mis les pieds. Il faudra des mois pour retourner en Espagne, pour créer une sorte de contrat avec la couronne et vous assurer la prise véritable de ce futur sous-continent. Avant de rentrer en Espagne, il a fallu toucher, effleurer cet empire. Je repense, c'est comme tout à l'heure la découverte du radeau. Il y a des petits événements comme ça qui font l'histoire. Et l'histoire de la fin du Pérou précolombien, je crois qu'elle commence aussi par un geste, ou peut-être le geste le plus héroïque de Pissarro. C'est justement par ce genre de choses qu'un chef, par un geste, arrive à devenir un véritable chevalier, quelqu'un qui rentre dans la légende. Parce qu'on est maintenant seul sur une île et on attend. On attend, après avoir eu très faim, on attend deux bateaux qui arrivent de Panama. Et là, il y a du ravitaillement, bien sûr, mais il y a un capitaine qui se nomme Tafur et qui prétend qu'il faut revenir sur Panama, qu'il faut arrêter d'aller vers le sud, qu'il n'y a rien vers ce sud. Et là, eh bien, quand vous avez déjà perdu courage après plusieurs mois d'attente, Pissarro ne trouve pas de mots, il ne trouve pas ce qu'il faut pour que les hommes restent avec lui et qu'ils pensent encore à aller vers le sud. Et là, si on a accueilli la caravelle avec des cris de délivrance, naturellement tout le monde veut embarquer, tout le monde veut rentrer à Panama. Et tout ce que peut dire Pissarro ne sert à rien. Alors, il va faire quelque chose d'étrange. Il va simplement tracer. Alors, imaginez-vous, vous tenez votre épée à la main et vous tracez sur le sable une ligne. Et vous dites à tous ces hommes que d'un côté, bien sûr, c'est la mort, c'est la lutte, la guerre, la faim, le dénuement, les tempêtes, tout ce qu'ils ont déjà vécu, mais c'est la route du Pirou et c'est la route vers la richesse absolue. Vous étiez pauvre, vous étiez comme moi quelqu'un qui gardait des pourceaux en Espagne, mais de l'autre côté, vous serez le roi du monde, vous serez le plus riche du monde. Et de l'autre côté, bah, c'est la facilité. Mais c'est naturellement le chemin de Panama, mais c'est surtout la pauvreté. Alors choisissez comme des croyants, choisissez comme des Castillans et osez passer cette frontière. Et il saute la ligne qu'il a tracée sur le sable et il se place naturellement du côté du futur Pirou. C'est un très beau geste. Et là, il n'y aura que 13 hommes qui vont l'imiter. Il y aura Ruiz, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera le premier à sauter. Il y aura un homme qu'on reverra, qui s'appelle Pedro de Gandia. Il y aura 11 autres, enfin. L'histoire a conservé véritablement leur nom, mais ça n'est pas très important, mais se trouve assez extraordinaire qu'après ces privations, il y ait ce geste qui est celui d'un conquérant, d'un conquistador, et qui va véritablement décider de la suite des événements. Parce qu'obligatoirement, Tafur va repartir, il va repartir vers Panama, il va rapatrier les malades et les faibles, et il faudra attendre, avec une poignée de soldats, attendre de nouvelles troupes, des armements, des vivres, et ils vont rester tout seuls sur un rocher, comme ça, en pleine mer du Sud. Ils vont rester tout seuls pendant des mois, ils vont construire des huttes pour se protéger des orages, il pleut tout le temps. Pendant 7 mois, vous allez regarder l'horizon, vous allez attendre ce bateau et enfin vous avez un seul navire qui apparaît avec quelques hommes. C'est un cadeau, bon, un petit cadeau du gouverneur de Panama, mais on vous donne à partir de là 6 mois pour faire la conquête du Sud. C'est encore plus fou, il y a 7 mois que vous attendez et vous n'avez plus que 6 mois pour accomplir tout cela. Et finalement, vous allez descendre. Vous êtes conseillé par les Indiens, ces Indiens qui étaient sur le radeau tout à l'heure. Vous allez descendre, la côte est très basse, vous avez du sable partout. Il y a des champs irrigués qu'on commence à apercevoir, des maisons blanches qui s'étagent sur plusieurs hauteurs. Vous avez la cordillère qui est toujours plus haute, toujours plus belle du côté du Levant. Vous êtes à la frontière d'un monde inconnu et après 25 jours de navigation, vous entrez dans les eaux grises d'un immense golfe. Vous arrêtez, vous passez la nuit près d'une île déserte et tout près, vous êtes à quelques encablures de Tumbes. Naturellement, vous savez maintenant que vous êtes aux portes de l'Empire Inca. Vous êtes maintenant en face de Tumbes Et vous allez descendre avec des volontaires. Vous allez débarquer en compagnie d'un noir. Et on va apporter un cochon, on va apporter des volailles, afin d'offrir tout cela aux principaux personnages de la ville. Et au retour, on avait déjà débarqué une première fois. Eh bien, on commence à raconter des histoires incroyables. On fait des rapports. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces hommes? Pas grand-chose de nouveau. Des maisons, une forteresse, un palais. Mais dans ce palais, de l'or, de l'or, encore de l'or. Alors bien sûr que quand on pense, quand je pense comme archéologue, ce qui est triste, c'est que dans ces chroniques, il n'y a aucune description des vêtements, il n'y a rien sur les poteries, sur l'architecture, sur le travail, sur les ornements, sur la musique. Mais quelle musique? Personne n'a jamais parlé de musique. Donc je peux dire que très rarement, c'est Descola qui décrit très bien cela. Il dit que jamais on n'a pénétré sur une terre nouvelle avec moins de curiosité que celle de ces Espagnols. La seule curiosité qu'ils avaient, je crois que c'est le métal, bien sûr, ce métal précieux, et ce sont les femmes, parce qu'ils parlent beaucoup de femmes, enfin, sexe, or, c'est tout ce qu'il leur faut, on s'impatiente, et on va simplement envoyer cette délégation à terre. Alors, vous avez la scène. Je vous ai dit qu'il y avait un noir qui avait débarqué. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va frotter sa peau pour en effacer la couleur. Ça, c'est la première chose que les Indiens vont tenter de faire. Et maintenant, la nuit est tombée, vous entendez simplement les tris d'une flûte à l'horizon. Vous vous balancez dans ce port, sur votre navire. Il y a un tambourin, enfin, il y a un rythme rapide. Il y a des gens de Tumbes qui se réjouissent parce que, après tout, ils sont contents de la visite de ces hommes blancs. Pourquoi? Parce que les rois péruviens savaient que l'arrivée des étrangers marquait véritablement la fin d'un pouvoir. C'est vrai, mais le peuple, lui, il ne retient pas grand-chose de ses prédictions, tout juste ce qui a été révélé aux prêtres. Mais finalement, ce qui est important, c'est que ces hommes nouveaux vont être pris pour des Viracocha, des fils du soleil. Alors, ils pensent aux Incas, bien sûr, ces gens de la côte. Ils pensent surtout aux autres conquérants, ces fils du soleil. Après tout, ils ont été pris en 1460 dans le filet des vrais fils du soleil, des Incas. Donc, ils savent très bien qu'un jour, enfin, il y a quelque temps, c'était une nation indépendante, qu'ils ont déjà été envahis une fois, et les Chimous, ils savent qu'ils ne sont pas Incas depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Là, vous sentez qu'il y a déjà un peu ce qui s'est passé au Mexique, c'est-à-dire qu'on commence déjà à tomber sur des gens qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment attachés à l'Empire Inca. Alors, qu'est-ce qui se passe à Quito? Qu'est-ce qui s'est passé après notre mort de Huayna Capac? Ces dernières volontés, je pense que tout à fait normalement, elles ont été accomplies. C'est-à-dire qu'on va arracher son cœur, on va enlever ses entrailles, on va laisser tout cela à Quito. Et vous avez momifié maintenant ce corps, vous allez le transporter jusqu'à Cusco. J'aimerais maintenant que vous pensiez à l'endroit où vous êtes. Vous êtes en plein cœur de la cordillère des Andes, vous êtes sur cette autoroute incroyable, sur ce sentier fantastique qui fait plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres. Et vous allez partir maintenant. Vous allez voir partir, parce que vous n'êtes plus l'Inca. Vous êtes calé dans une chaise à porteurs, si vous étiez capable de penser comme une momie. Et c'est vrai que vous êtes encore vivant. L'Inca, il va passer au milieu de son peuple. On s'imagine ce que c'est que 2000 kilomètres avec des gens prosternés à vos pieds. Vous êtes encore tellement vivant que depuis la capitale de cette province du Nord jusqu'à Cusco, le vrai nombril du monde, on va arrêter ce cortège devant toutes les maisons de prière. On va ensuite repartir et retraverser tous ces hauts plateaux. On va passer dans chaque ville, les curacas, les prêtres, les chefs, enfin, toutes les familles, tous les fonctionnaires de l'Empire viennent pleurer. On va chanter les louanges du défunt. On attend un nouveau soleil sur Terre. On sacrifie des lamas. Il y a toutes les femmes qui ont été touchées, qui faisaient partie du harem d'Huayna Capac, qui vont également être sacrifiées. Il y aura naturellement toutes ces étapes où il a connu quelqu'un et les gens vont se suicider volontairement pour suivre ce cortège un peu morbide, bien sûr. Les chroniqueurs indiens nous disent comment les femmes et les gens qui étaient proches de l'Inca vont mourir. On dit simplement qu'on leur crachait une décoction de feuilles de coca dans la bouche et qu'on les étouffait ainsi. Il fallait pouvoir accompagner dans l'au-delà, il fallait accompagner vers le soleil ce fils même du soleil. Donc maintenant que vous êtes parti de Quito, vous allez finalement arriver à Cusco où vous attend je n'ose pas dire le fils légitime, mais enfin quelqu'un à qui l'on a donné un certain pouvoir. C'est Huascar. Et vous vivez maintenant les dernières cérémonies. Vous venez maintenant d'accompagner ce défunt qui était digne de porter de la vigogne. Ou même peut-être, tiens, ça c'est un détail qui m'a toujours touché, de savoir que l'Inca était le seul qui avait le droit de porter des vêtements faits avec les petits poils des chauves-souris. C'est vraiment la chose la plus délicate qui soit. La vigogne, c'est déjà merveilleux. Toutes ces petites vigognes qui courent dans les Andes appartenaient à l'Inca. C'était l'animal du grand chef. Il y avait des chasses particulières uniquement pour récolter cette laine sacrée. Et maintenant, vous êtes devant tous les ancêtres de Huayna Capac. Ils ont tous été alignés dans ce temple. Les momies sont là. Elles ont toutes la même attitude, avec cette tête inclinée, les bras croisés, les jambes repliées. Bon, ils sont légers comme des nouveau-nés, en fait. Ils ont la couleur de la terre, et vous regardez surtout cet étrange reflet des plaques d'or qui sont posées sur l'ovale de leurs yeux. Et si vous êtes Huascar, vous passez devant ses ancêtres et ces différents personnages importants, vous quittez le temple, vous êtes sur votre palanquin, vous retournez vers votre palais au centre de Cusco. C'est un palais étrange, c'est une sorte de maison très austère, uniquement taillée avec ses pierres. Vous connaissez ces formes de taille, cette taille curieuse que les Incas vont utiliser, une sorte de souricière, une chose complètement enfermée sur elle-même. Et le luxe, il est caché à l'intérieur. Et le luxe, là je repense aux Espagnols, c'est bien sûr ces jardins qui sont faits avec des statues d'or, d'argent. Enfin, tout est décoré en miniature, comme si on voulait reproduire le monde entier à l'intérieur de votre palais ou à l'intérieur du Temple du Soleil. Vous avez une chambre spéciale où vous allez appeler vos serviteurs, on va se charger de votre toilette, il y a des nobles, chacun a été désigné de façon différente. Il y en a un qui ne s'occupera que, par exemple, de vos manteaux, l'autre de vos sandales, le troisième de vos tuniques. Vous ne reportez jamais deux fois le même vêtement, vous ne touchez jamais deux fois le même verre ou le même vase d'or, ce vase de libation. Et aujourd'hui, vous ne conservez que l'insigne de votre rang, c'est-à-dire ces grands cercles d'or qui pèsent lourdement à vos oreilles. On va vous appeler Orejón, c'est-à-dire ceux qui avaient les oreilles lourdes, les grandes oreilles. Vous êtes seul, vous commencez à réfléchir et vous pensez en fait à cet autre bout du monde, à cet autre frère que vous avez là-bas du côté de Quito. Vous savez que, bon, si vous étiez fonctionnaire, si vous étiez Tukai Ryukuk, celui qui sait tout, celui qui apprend tout, bien vous sauriez qu'à l'autre bout, un certain Atahualpa, que vous ne connaissez pas, qui est un frère batteur, est en train de préparer une campagne. Enfin, en tout cas, qu'il est en train de regrouper des armées, des troupes du côté de Tumebamba, c'est la capitale du pays des Cañaris, qui ont été très très violents lorsque votre père a voulu attaquer cette partie de l'Équateur. Et vous savez que cette marche, c'est pas une marche tout à fait pacifique, hein. Le roi, il sait maintenant qu'il devra se méfier de l'autre partie de son propre monde. Et puis, vous imaginez l'audace, s'attaquer au légitime fils du soleil, car c'est vous maintenant qui êtes le soleil sur Terre, si vous êtes Huascar. Et il sait aussi que du côté de l'Est, de l'Ouest, du Sud, il y a déjà quelques petits problèmes. Vous allez envoyer en avant-garde vos propres troupes, vos espions, afin de ralentir, en tout cas, l'avance des gens d'Atahualpa. Et les soldats de Quito, malheureusement, ils sont en tout cas deux ou trois fois supérieurs à vos propres troupes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont terriblement guerriers, et ils vont finalement chasser tous les guerriers qui viennent de Cusco. On va poursuivre même le roi. Vous êtes obligé de reculer au milieu de quelques fidèles. Vous avez voulu engager cette guerre, mais vous êtes en train de la perdre. Et au moment où se couche ce soleil rouge, vous êtes fait prisonnier. Huascar, maintenant, appartient à Atahualpa. Le monde vient de changer. Il y a des drames comme cela qui se situent au moment de ce côté, au moment où la nuit glacée tombe sur la cordillère. Et pendant ce temps, un Espagnol qui connaît tout, qui sait tout aussi, réfléchit au futur de l'Empire. les hommes blancs, ces barbus, pendant ce temps, ils sont revenus. Ils étaient considérés comme les maîtres de l'éclair. Ils sont maintenant de retour à Tombes, cette très belle ville de la côte. Ils sont accompagnés toujours avec ces bêtes assez curieuses, des bêtes à quatre pattes qui sont rapides, très rapides dans leur évolution. Et si vous êtes à Atahualpa, si maintenant vous avez réussi à demeurer à Caramarca, où vous êtes resté lors de la bataille contre votre frère qui est maintenant prisonnier, maintenant vous allez porter véritablement le turban rouge en laine de vigogne, c'est-à-dire l'insigne de la majesté, vous serez le Sapa Inca, l'Inca régnant. Bah, la seule chose, c'est de garder Huascar prisonnier et de punir tous ses partisans. Ça a été terrifiant, mais c'était comme ça à chaque fois. Chaque fois, on pouvait supprimer tout à coup l'élite de quelqu'un qui était moins méritant que vous. C'était le plus fort qui devenait Inca. Ça n'était pas l'héritier d'un Inca qui devenait le roi futur ou l'Inca futur. Non, c'était celui qui arrivait à être le plus violent, le plus terrible, qui avait le droit à être le fils du soleil. Alors la première décision, ça va être de regrouper vos meilleures troupes dans cette plaine de Caramarca, parce que maintenant vous entendez parler, vous savez que ces hommes sont revenus, que les blancs sont à nouveau là. Et finalement, dès que vous allez être tenu au courant, parce que vous êtes tenu au courant de tous les faits, de tous les gestes de Pissar, vous savez qu'il est installé à Tombes et que ça n'a pas été très facile parce que malgré les interdictions, les soldats vont piller les Indiens, ils vont ensuite obliger tous les gens de Tombes à s'enfuir vers les montagnes. Donc il y a déjà des drames sur la côte. Les Espagnols sont incapables de rester sur leur position et de ne pas se servir et de ne pas prendre tous ces bijoux et tout ce qu'ils trouvent en route. Et à Atahualpa, il a examiné tous ces renseignements. Il estime qu'il faut d'abord enlever tout espoir aux partisans de Huascar. C'est-à-dire qu'il va donner l'ordre aux gardiens de la forteresse de Jaura d'enfermer son frère et de l'abattre. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, de savoir qu'il va tuer son propre frère, mais c'est assez logique, dans la logique indienne, bien sûr. Donc, si on élimine maintenant complètement un des partis, quant aux étrangers, il faudrait qu'on arrive également à les éliminer totalement. Alors, on envoie un nouveau messager avec des cadeaux, avec de l'or, avec de l'argent, simplement pour que on puisse mieux connaître en détail les différentes forces qui sont mises en présence et que l'Inca puisse aussi dire qu'il a été le vainqueur et qu'il montre sa puissance à ses nouveaux venus. Et Atahualpa, finalement, il déclare qu'il est capable de recevoir ses étrangers comme des frères. Il est très subtil. Il va agir un peu comme Montezuma au Mexique. Et lorsque l'ambassadeur revient à Caramarca, il va simplement parler de son entrevue, qui s'est très bien passée. Et ce qui est immédiatement reconnu, c'est le fait qu'ils vont pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire que l'homme barbu accepte l'hospitalité d'Atahualpa. Et attention, si vous étiez maintenant Pissarro, vous vous rendrez compte de la difficulté. Vous êtes au bord de la mer, vous avez devant vous cette cordillère qui monte à 5000, 6000 mètres, 7000 dans certaines régions d'altitude. Et vous allez devoir faire 400 km pour arriver jusqu'à 3000 mètres, c'est-à-dire arriver sur ce plateau de Caramarca. Et là, vous savez que les Indiens sont autour de vous. Vous n'avez que quelques chevaux, vous n'êtes que très peu nombreux. Et vous faites ce voyage en sachant que vous allez tomber dans une souricière. Vous tombez au cœur même du pouvoir Inca, puisque Atahualpa est encore à Caramarca. Il va faire simplement évacuer la ville de toute sa population. Il y a à peu près 2000 habitants. C'est une ville où j'adore aller parce que tout à coup, vous respirez ce moment qu'on va vivre. C'est quelque chose qui est très très fort. Vous êtes dans cette immense cuvette et là, les hommes blancs vont devoir prendre leur quartier, c'est-à-dire qu'ils vont devoir descendre dans cette cuvette, dans cette ville absolument vidée. Ils vont se retrouver dans quelque chose qui a la forme d'une souricière, un immense carré qui est la place centrale avec les palais, avec le palais royal qui est encore un peu plus loin, en dehors de la ville. Et c'est le seul endroit où les armées indiennes vont camper, vont se retirer. Donc vous savez que vous rentrez dans une ville qui est vide et vous savez qu'à quelques centaines de mètres de là, vous avez toute l'armée Inca qui vous attend. Alors là, je vous donne une date précise. Parce que tout va se passer entre le 15 novembre et le 16 novembre 1532. C'est une des dates les plus importantes de notre planète. Parce qu'à partir de là, imaginez-vous, vous êtes en 1532. C'est le début du capitalisme. Lorsque vous aurez tout à coup plusieurs tonnes d'or qui vont tomber dans les poches de l'Europe et surtout celles de l'Espagne, le monde va basculer vers une fonction commerciale, une idée inflationniste complètement différente. Là, je parle de l'actualité, de la politique même de cette époque. Mais cette journée, c'est vous dire, on va en parler dans toutes les gazettes du monde. J'ai retrouvé des gazettes de Lyon qui en parlaient quelques semaines après pour dire simplement que c'était l'événement le plus incroyable depuis la naissance de Jésus-Christ, le fait d'avoir réussi à obtenir le trésor de Caramarca, le trésor de l'Inca. Vous débouchez sur cette plaine et il y a à peu près, je sais pas, il doit y avoir 8 ans, grosso modo, jour pour jour, que vous êtes parti de Panama, si vous êtes Pissarro, et vous avez commencé votre première expédition, là, justement, il y a maintenant 8 ans. Vous êtes maintenant gouverneur, vous êtes capitaine général d'un empire des Andes, tout vous appartient déjà, par les lois. Vous avez la foi, vous êtes parvenu véritablement au sommet, en allant jusqu'en Espagne, et vous arrivez maintenant à 3000 mètres, je l'ai dit, entouré de sommets, et vous êtes dans une espèce d'arène curieuse. C'est vrai que je monte toujours, quand j'arrive à Cajamarca, sur la seule colline de cet endroit. Une colline où Pissarro avait fait placer une bombarde, justement pour ce jour fatidique. Et vous dominez cette ville. On voit encore, dans la ville coloniale actuelle, l'emplacement de tous les bâtiments précolombiens. On visite encore la chambre où va être enfermé dans quelques heures l'Inca. Et c'est vrai que, quand vous voyez cet endroit, vous imaginez aussi, à l'heure du couchant, cette émotion qui a dû être extrêmement forte, parce que bien sûr, si vous êtes comme cela au milieu de tant de milliers d'Indiens, vous savez qu'il n'y a plus d'autre solution que de réagir comme un bon chrétien, comme un bon chevalier. C'est-à-dire que vous êtes seul à l'autre bout du monde, à des milliers et des milliers de kilomètres de l'Espagne, et vous devez agir seul avec quelques dizaines d'individus contre un monde de plusieurs millions d'habitants, contre un monde qui est plus grand que l'Europe elle-même. C'est assez fou de se trouver dans cette position, et je crois que ce conquistador, ce serait peut-être pas un grand général s'il était en Espagne, mais là, simplement parce qu'il est seul, je crois qu'il est la représentation de ce que devait être à ce moment-là la chrétienté. Il était vraiment le monde, et surtout la vérité. Et ça, je crois que c'est très important pour ces quelques instants qui vont suivre, parce qu'on va donner l'ordre de pénétrer dans Cajamarca. Vous avez ces cavaliers qui sont en tête, vous avez l'infanterie, le gros de la cavalerie, vous avez ces bannières, et vous allez rentrer, comme je pourrais dire, triomphalement dans une capitale qui est totalement déserte. Une place totalement fermée, juste deux portes. Je situe un peu l'endroit parce que ces maisons qui entourent la place sont solides, elles sont basses, elles sont allongées. Vous avez simplement un peu de paille sur les toits. Et vous avez une tour de guet dans un coin, ou à côté des portes également. Et vous avez simplement le fait que Catahualpa ne soit pas au rendez-vous, parce qu'en fait c'était l'hospitalité qu'on offrait à Pissarro. Il n'y a personne lorsqu'il pénètre. Alors là, il envoie une première délégation avec 20 cavaliers, c'est Soto qui va partir, Fernando de Soto, celui qu'on retrouvera du côté des États-Unis beaucoup plus tard, et il va aller chez l'Inca pour prier simplement le roi de venir. Donc il fait cette petite distance, on envoie encore quelques cavaliers supplémentaires, et vous avez ce moment de l'ambassade, qui est quelque chose d'assez fou, parce que j'aimerais juste que vous rencontriez ces deux hommes. C'est-à-dire que vous voyez ce frère de Pissarro qui va être envoyé en urgence pour augmenter un peu l'ambassade et qui arrive avec Soto et qui sont là maintenant. Il y a un chemin d'aller, c'est typiquement les voies incaïques. Et vous êtes maintenant en train de passer un cours d'eau, il y en a encore un deuxième derrière. Les soldats ne bougent absolument pas. Vous arrivez devant des centaines de dignitaires et là, vous retrouvez finalement Atahualpa. Il est assis sur un siège de pierre très bas. Et il y a deux femmes devant lui qui tiennent une simple étoffe rouge parce qu'on tient à le dissimuler. Il est caché parce que personne n'a le droit de le regarder. On enlève maintenant le voile. Et il se montre dans toute cette dignité de fils du soleil. Il est coiffé d'un simple turban avec une tiare. Il n'a absolument jamais levé les yeux sur les Espagnols. Il fixe la terre et Soto, il transmet ses messages, il y a un semblant de discussion, il y a l'interprète qui est là, et Atahualpa ne répond jamais directement, mais ce qui est important, c'est qu'on fait apporter une boisson de maïs, on la passe ainsi d'un personnage à l'autre, et il y a ce petit instant de nouveau historique où le cheval de Soto se cabre, et il arrive à le maintenir, et il l'arrête juste au pied d'Atahualpa. Les chroniqueurs nous en parlent vraiment. Atahualpa n'a absolument pas bronché, mais il y a des dizaines d'Indiens qui vont reculer, qui vont oser bouger. Dans les minutes qui suivent, tous ces gens-là vont être tués par l'Inca. Je veux dire qu'on va donner l'ordre de les supprimer, simplement parce qu'ils ont osé broncher lorsque l'Inca, lui, n'avait pas bougé.
Thank you.
Vous êtes revenu à Cajamarca, la nuit est tombée, on attend maintenant, on attend Atahualpa qui a promis de venir. Et vous êtes là en attente, c'est vrai, il est impossible de trouver le sommeil, vous pensez bien, le lendemain à l'aube, on va communier et on va inviter l'Inca pour le soir. Et finalement, Pissarro a bien préparé la réception. La visite d'Atahualpa, pour lui, il sait que c'est le couronnement. Il sait qu'il devra refaire un geste qui a déjà été fait une fois. C'est celui de son cousin, une fois de plus, de Cortés. Il sait qu'il est chevalier de Saint-Jacques, qu'il faudra utiliser les arquebuses, qu'il faudra crier Santiago, qui est vraiment le patron de cet ordre de chevalerie, qui est vraiment le patron de tous les conquistadors et qui a permis de repousser l'infidèle de toute l'Espagne. Il sait qu'on aura une bataille, qu'il y aura du sang. Il sait aussi que ce soir, ce sera définitif. Ou il sera gouverneur, ou il sera capitaine général, ou il sera le juge véritablement suprême de ce qu'on appelle déjà la Nouvelle Castille, sinon rien. Et naturellement, il faut disposer les participants, chacun doit tenir son rôle, on va placer chaque soldat à sa place, il n'y a que 200 personnes à peu près, et on va dire à Valverde surtout de venir avec les évangiles qu'il doit tenir dans ses mains, il doit lui s'avancer vers l'Inca. On va pointer toutes les pièces sur les environs immédiats de la ville, je vous ai parlé de cette colline tout à l'heure où aujourd'hui il n'y a plus qu'une croix. Il y a les cavaliers qui vont être répartis en deux compagnies. On va attendre dans toutes les rues voisines. Vous avez le gros des fantassins qui vont se cacher dans les maisons. Les trompettes doivent être prêtes juste pour sonner le ralliement. Les soldats sont inquiets. Vous imaginez la préparation de ce moment. C'est très, très dur à supporter. Et puis, il y a surtout cette immense menace qui s'approche maintenant d'eux à travers la plaine. Il y a bien de quoi. Il y a 2000 Indiens qui précèdent en fait ces litières dorées. Il y a celle du roi, celle du chef de la province des Caras. Et ils arrivent devant les premières maisons de la ville. Il y a une centaine de danseurs. Il y a des chanteurs qui escortent les princes. Il y a tous ces serviteurs qui balayent les dalles et les porteurs, ceux qui portent les palanquins, qui posent leurs pieds nus sur ces dallages. Et bien sûr, personne n'ose regarder la figure royale. De chaque côté, il y a des milliers de soldats qui avancent très lentement. On arrive maintenant vers la porte de la place. On se prosterne. Atahualpa pénètre maintenant dans cette esplanade complètement vide. Vous avez Pissarro qui l'attend. En chantant, les Indiens entrent à leur tour et petit à petit, ils remplissent tout cet immense carré. Ils paraissent désarmés, enfin, c'est ce qu'Atahualpa avait en tout cas prétendu. Il y a quelques observateurs qui disent qu'il y a des frondes, qu'il y a quelques pierres qui sont cachées sous les vêtements, sous les tuniques. Et toute l'armée encercle maintenant la ville et Pissarro fait un signe. C'est un moment très fort. Le père Vincent, il s'avance en direction du roi et là, on ne sait plus très bien quelle est la minute de vérité. Ce qu'on sait, c'est que le chapelain, il est en face du palanquin royal, il prend la parole, il dit qu'il vient au nom de Dieu, qu'il vient enseigner ce qui est dans ce livre. Vous l'imaginez parler en espagnol. Vous voyez le petit traducteur, on sait même qui c'est, le petit Martinillo qui est là. Et Atahualpa, il va certainement tendre la main vers cet évangile. Il va toucher pour la première fois un livre. Il essaye de l'ouvrir, il essaye de savoir pourquoi à l'intérieur de cette chose, il ne connaît pas le papier, à l'intérieur de cette chose, il y a quelque chose qui serait plus fort que son propre soleil. Alors là, on ne sait pas. Peut-être qu'il a simplement laissé tomber ou qu'il a jeté le livre à terre. Et c'est juste le déclic qui va permettre à Valverde d'intervenir et de se retourner vers Pissarro qui est caché et de donner le signal. C'est déjà la dernière seconde de l'Empire Inca. C'est vrai que même si ce moment est très fort et très puissant et très bruyant, c'est c'est de la nostalgie qui reste sur ce moment où le gouverneur marche lentement en direction d'Atahualpa. Il fait signe à Pedro de Candia, il y a l'artillerie, et tout à coup, il y a un coup qui éclate, il y a le son des trompettes qui déchirent l'air, vous avez le cliquetis des armes, le martèlement des sabots, tout ça, ça répond effectivement à ce cri unique de Santiago. Et puis, c'est une espèce de cérémonie qui va commencer. C'est vrai, les Espagnols vont déboucher sur la place. Ils se précipitent sur tout ce qui est indien. L'attaque a été tellement brutale que les hommes en tunique, ils n'ont même pas eu le temps de fuir. Il y a même un chroniqueur qui dit qu'à ce moment-là, ils ont eu tellement peur qu'ils auraient voulu enfoncer les murs pour s'échapper de cette place. Et les Indiens sont terrifiés parce qu'ils n'arrivent pas à fuir par cette porte étroite. Ils s'écrasent mutuellement sous le feu de ces arquebuses. C'est un carnage absolu. C'est très facile dans ces murs de Caramarca. Et autour de la litière d'Atahualpa, les seigneurs, les conseillers, les caciques, enfin tous ceux qui sont là, ils se laissent tuer, ils protègent le roi de leur propre cadavre. Et un soldat arrive jusqu'à Atahualpa, et là il lève son épée, il va frapper, et on sait que c'est Pissar justement qui va s'interposer, et sa propre main va recevoir un coup, et là il est obligé d'intervenir, il va prendre Atahualpa par la main, il va le faire prisonnier. Et c'est ainsi que la cavalerie va pouvoir foncer hors des murs, elle pourchoisse. Enfin, vous imaginez tous ces fuyards, parce qu'à l'instant où Atahualpa s'est arrêté, a été fait prisonnier, le monde entier, sur le plan de l'énergie vitale, s'arrête. Donc aucun Indien ne va oser attaquer un Espagnol. Si l'Inca s'arrête, tout s'arrête. Et ils vont tous se laisser massacrer. On arrête de tuer ces gens-là sous cette pluie persistante qui a commencé au début de la visite. Il pleut sans arrêt, on s'arrête de tuer au moment où la nuit est vraiment tombée. Et on prétend qu'il y a eu effectivement 2000 cadavres. Le roi a été remis sur sa litière et il en descend maintenant dignement. Il est assis face au gouverneur. Et on dit qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'il n'y a eu qu'un seul Espagnol qui a été blessé légèrement. Il y a aussi des centaines, des milliers de prisonniers qui vont être faits au cours des heures qui suivent. Atahualpa n'a pas dit un mot. Et ce qu'on peut voir devant lui, c'est simplement ses armes familières. C'est-à-dire qu'on va jeter des trophées, ses frondes, ses pierres polies, grosses comme des œufs. Il y a ces masses, des masses longues avec des extrémités qui sont garnies de pointes. Il y a même des masses d'officiers en or, en argent, des haches, des lances. Le monde s'est arrêté. Le soleil s'est bloqué dans le ciel de Caramarca. Et la seule chose qui restera pour notre prochaine rencontre, c'est de demander à ce dernier Inca, à ce fils du soleil, de faire pleurer son père pour apporter tout l'or du monde Inca aux pieds de Pizarro et des Espagnols. Depuis l'instant où Atahualpa va donner l'ordre d'aller chercher l'or de l'Empire, ses larmes du soleil, plusieurs mois vont s'écouler, jusqu'à ce que tout cet or arrive à Caramarca. On pourra se retrouver dans quelques semaines, au début de l'automne, au début de septembre, pour recevoir ces vases, ces caravanes, ces milliers de lamas chargés de poudre d'or, d'objets les plus beaux du monde, et vous mettrez quelques jours à partir de début septembre, pour les fondre, les transformer en lingots et les ramener vers l'Europe. À raison de 4,2 grammes d'or fin par peso, vous allez ajouter à cela des milliers et des milliers de pesos. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver entre 3 000 et 10 000 devant 3 ou 10 000 kilos d'or. Vous les voyez ?